Bonsoir à tous. Le propre de l'homme, eh bien, ce sont ses déchets. C'est une petite réflexion qui m'est venue en préparant cette émission et autour de laquelle nous allons débattre en direct du Stars & Bars à Monaco avec nos invités. Car c'est un fait, il n'y a pas un seul être vivant au monde qui produise autant et de tels déchets, qui laisse derrière lui en essayant de les détruire, de les recycler ou alors en les abandonnant purement et simplement dans la nature. Des déchets de tout type. Et de leur traitement à Monaco, nous allons parler ce soir avec Cyrielle Dumas de la Direction de l'Environnement sur la position et l'action du gouvernement à propos de ces déchets. Bonsoir. Bonsoir. Céline Varegno, la responsable du tri des déchets à la Société Monégasque d'Assainissement. Que trie-t-on ? Le fait-on ? Et que deviennent les déchets triés ? Bonsoir. Bonsoir. Yann Morvezen, qui est directeur adjoint du CHPG, l'hôpital de Monaco. Il est en charge des ressources matérielles et il va parler des déchets sensibles et bien encombrants. Il y aura aussi Sébastien Huchère, qui est employé de Decathlon, le groupe de matériel sportif. Sébastien est membre de Monaco Eco Run et un des participants actifs de la journée mondiale du nettoyage de la planète, autrement dit le World Cleanup Day. La dernière édition, c'était le 21 septembre dernier et la prochaine, ce sera le 19 septembre 2020. Il y aura aussi Florent Champion qui travaille pour Ramoges. Ramoges, c'est la zone maritime de protection de l'environnement marin entre Monaco, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la zone Ligure de l'Italie. On parlera notamment de la pollution marine aux sacs plastiques et de la sensibilisation des plaisanciers. Et puis notre hôte, Kate Powers, la directrice du Stars & Bars, très impliquée dans la lutte contre les déchets. On verra avec elle ce que le restaurant fait par exemple pour recycler les surplus de nourriture que peuvent parfois laisser les clients. Voilà donc vaste programme, autant que l'immensité du problème et de la tâche qui nous attend si nous voulons réduire nos déchets pour ne pas périr, car c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. La planète commence à étouffer sous ses déchets et l'on ne voit pas très bien comment arrêter la machine à produire, mais nos invités vont nous dire comment ils font pour mettre le pied sur la pédale de frein. Céline Varegno, vous allez nous dire ça. Il y a trois types de déchets pour faire simple. Ceux qu'on ne produit pas, l'idéal, hein, on est d'accord. Ceux qu'on élimine, à Monaco, c'est en les faisant passer dans l'incinérateur. Et puis, il y a ceux qu'on recycle. Ça commence à prendre, le tri des déchets à Monaco ?
Alors, ça commence à prendre. Bon, ça fait 10 ans maintenant que c'est mis en place sur la principauté. Là, ça commence beaucoup à s'accélérer, puisque en mars 2019, on est passé en extension des consignes de tri et en simplification. Donc maintenant, le papier et les emballages, carton, plastique, métal, peuvent être mis dans la poubelle jaune. Donc ça simplifie les choses. Donc on a eu beaucoup de demandes de bac. En plus, le gouvernement, via la direction de l'aménagement urbain, prend en charge désormais l'allocation de ces bacs, donc, qui sont gratuits pour les bacs de tri. Donc ça se développe. Ça se développe bien. Le verre, on a toujours eu un bon taux, mais on augmente aussi le taux de recyclage, enfin le taux de collecte du verre séparé.
D'accord. On va prendre tout ça en détail, comme ça, ça sera très beaucoup bien. Plus clair pour ceux qui nous écoutent. Je rappelle que vous êtes responsable du tri des déchets à la Société Monégasque d'Assainissement. Le recyclage, c'est encore assez faible, mais ça augmente. Alors, si vous avez un chiffre à nous donner, vous êtes le bienvenu.
Difficile de donner un chiffre. C'est encore assez faible en proportion par rapport au volume global des ordures ménagères et donc ce qui va être en valorisation énergétique et non pas valorisation matière. Mais par contre, on a des augmentations de 15% du verre qui va être collecté et recyclé par rapport à l'année dernière. On est à plus de 4% pour les emballages ménagers recyclables. On est à 15% pour le carton. Donc on a vraiment une croissance, on peut dire, exponentielle par rapport à la tendance qu'on avait ces dernières années.
Chez les particuliers, qu'est-ce qu'on peut trier ? C'est verre, papier, emballage, tous les emballages ?
Tous les emballages ménagers vont dans la poubelle jaune. Le verre, les emballages en verre, donc bouteilles, pots et bocaux vont dans la poubelle verte.
Ça, le verre, c'est autre chose, oui, d'accord. Prenons les emballages de poubelle jaune.
Oui.
On peut tout trier.
On peut tout trier et mettre dans la poubelle jaune, donc les pots de yaourt qui avant n'étaient pas inclus.
Ah oui, les pots de yaourt, c'était important. On ne savait pas très bien ce qu'il fallait en faire.
Alors, les pots et barquettes aussi, donc votre barquette en plastique de jambon. Mm-hmm. Si, alors, il faut séparer les matières, donc enlever l'opercule. Mais voilà, tout ça maintenant est en extension de consigne de tri, donc permet d'être envoyé vers le centre de tri.
Les bouteilles plastiques, est-ce que vous savez combien sont recyclées ? Bon, les fabricants de bouteilles plastiques disent 50%, ils sont très optimistes. Pour les moins optimistes, c'est 10% de recyclés. Quel est à peu près le niveau, à votre avis ?
Ça, c'est, alors,
c'est difficile à dire.
Mais c'est un peu technique, en fait, parce qu'il y a plusieurs définitions. Il y a le taux de recyclage qui est fourni par Eco-Emballage, qui a un calcul un peu technique. Après, je pense que c'est toujours compliqué parce qu'il faut qu'on sache ce qui est mis en marché dans une même année et ce qui va être envoyé vers des filières de recyclage. Mmh. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le plastique, ce qu'on appelle le PET clair, donc vos bouteilles d'eau transparentes, se recycle bien et c'est vraiment dommage de les envoyer vers la valorisation énergétique parce que c'est plus polluant quand ça brûle, alors que la valorisation matière, on peut vraiment en faire avec.
D'accord. Est-ce que c'est recyclable à l'infini, le plastique? Pas vraiment.
Non. Non. Le plastique, ce sera jamais même un plastique qui est fait en matière recyclée. À partir de plastique donc recyclable, va toujours avoir besoin de la matière brute en plus dans son process de fabrication. Donc non, à la différence, par exemple, du verre qui se recycle à l'infini, le plastique, ce n'est pas le cas.
Alors, vous nous l'avez précisé tout à l'heure, le processus a encore été simplifié. Maintenant, le papier, ça va dans le bac jaune
tout
et plus dans le bac bleu.
Oui, exactement. Il n'y a plus de bac bleu en principauté, pour la simple et bonne raison que le centre de tri où on envoie nos emballages à Cannes-la-Bocca est équipé de toute une infrastructure très technique, avec beaucoup de technologies qui permettent de faire un tri automatisé. Et donc de séparer les matières, donc on peut séparer le papier, du plastique, du métal et ainsi de suite.
Est-ce qu'on peut recycler le carton brun ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a même une collecte séparée, mais qui est dédiée au commerce sur la principauté, qui permet vraiment d'avoir une collecte séparée, donc ça va vers une autre filière. Et puis pour les ménages, le carton brun, emballage, quand vous commandez sur internet ou autre, il faut le mettre dans la poubelle jaune.
Est-ce qu'un particulier à Monaco peut demander ses propres poubelles de tri ?
Oui, alors s'il est en immeuble, ce qui risque d'être le cas en principauté, il faut qu'il fasse une demande au syndic. Et dans ce cas-là, nous, au niveau de l'équipe de la SMA, on va venir pour essayer d'évaluer déjà est-ce qu'il y a bien un local qui permette d'accueillir ces poubelles, quel volume de poubelles il faudrait au regard du nombre d'habitants qu'il y a dans l'immeuble. Et on va faire une petite analyse technique.
Et c'est gratuit ?
Et c'est gratuit pour les poubelles de tri.
D'accord.
Donc si ils veulent continuer à produire des ordures ménagères, ils peuvent, mais ça va être payant parce qu'il faudra augmenter le nombre de bacs. Mais par contre, la direction de l'aménagement urbain et le gouvernement, la principauté, prend en charge les poubelles de tri.
Autre bac de tri, c'est le verre.
Oui.
Il y a pour les particuliers, mais il y a surtout pour les professionnels, les commerces, les hôtels, les restaurants.
Oui.
Ça se fait 7 jours sur 7. On y reviendra avec Kate à la fin de l'émission, mais c'est 7 jours sur 7. On peut...
Alors,
donner ces verres tout le temps.
Parce qu'on s'est rendu compte que le week-end, y a une grosse production de verres, qu'il y avait un vrai besoin pour les CHR, donc les cafés, hôtels, restaurants. Et effectivement, depuis que cette collecte du verre en 7 jours sur 7 est dédiée et aux particuliers et aux professionnels de la restauration est en place, c'est ce qui a fait qu'on a vraiment augmenté le volume de verre qui a été recyclé.
Alors là, on vient de parler des particuliers, mais il y a les entreprises, est-ce qu'elles jouent le jeu ? Ça doit être quand même plus compliqué pour elles.
C'est plus compliqué pour les entreprises. Ça va dépendre aussi des entreprises et des déchets qu'elles produisent. Donc pour tout ce qui est industrie, là, c'est des déchets un peu spécifiques. Et après, les petits commerces de proximité, donc ils ont des collectes pour le carton, pour le verre. Après, les industries, c'est aussi à eux, en tant que producteurs de déchets industriels, d'essayer d'identifier les filières de récupération de leurs déchets.
Les syndics d'immeubles, je me suis laissé dire qu'ils ne faisaient pas grand-chose parce qu'ils n'avaient pas encore reçu des directives du gouvernement, c'est vrai ?
Alors, ça a été vrai peut-être, mais ils ont tous normalement reçu un courrier début 2019 dans lequel un rappel de la réglementation a été fait. Et maintenant, on est de plus en plus sollicités spontanément par les syndics de copropriété, soit parce qu'ils ont été eux-mêmes sollicités par un habitant de l'immeuble, soit parce qu'ils veulent se mettre aussi au clair avec la réglementation. Et donc, on est de plus en plus sollicités. Donc, ça a été parfois un peu laborieux par le passé, mais maintenant, je trouve que ça va beaucoup mieux ces derniers temps.
Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que les autres déchets, ceux qui sont incinérés, ils sont aussi recyclés. Et ça, on ne le savait pas. Alors là, j'ai des chiffres très officiels qui viennent de la direction de l'aménagement urbain. 7800 tonnes de mâchefer, c'est reconverti dans les routes.
Tout à fait.
1300 tonnes de cendres qui sont issues de l'épuration des fumées, elles sont valorisées aussi pour stabiliser les anciennes milles de Seine dans les sacs. C'est incroyable,
oui.
Ça.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que la valorisation énergétique que permet l'incinérateur... elle a quand même une utilité et quelque chose de positif au point de vue environnemental, parce qu'on essaye au maximum de transformer, de valoriser les matériaux qui le peuvent.
Et on réutilise aussi 1775 tonnes de métaux.
Oui, pour le coup, en collecte sélective aussi, pour tout ce qui arrive à l'incinérateur ou voilà. Qui vont être traités de côté.
Absolument. Donc, il n'y a pas de décharge sauvage à Monaco ? Ça arrive ou pas ?
Alors, décharge, c'est un grand mot. Généralement, c'est plutôt quand c'est à très grande échelle. Par contre, des dépôts sauvages, oui, on en a. On en a malheureusement tous les jours. Donc, nos agents de collecte, quand ils envoient ou quand il y en a qui sont signalés, ils vont les collecter quand même.
Alors, la question qui se pose aussi, c'est où vont tous les matériaux qui sont recyclés, les emballages par exemple, où est-ce que ça se dirige tout ça ?
Ah, alors dans un premier temps, comme je le disais, au centre de tri de Cannes, qui va séparer les matières de façon automatique. Il y a quand même des hommes en bout de chaîne qui vont faire un contrôle visuel. Après, c'est mis en balle en fonction des matières. Il y a 13 matières différentes. Et là, c'est les recycleurs qui viennent les chercher et vont les emmener vers des usines de recyclage qui se trouvent à différents endroits. Donc il y en a en France. Pour le papier, c'est plutôt en Espagne. Y a le petit aluminium va aller en Allemagne, mais sinon tout le reste est recyclé en France.
Et le verre ?
Et le verre, pour nous, il va en Italie. Donc pas très loin, près de Savone. Donc on le collecte. On a un transporteur qui sert de zone tampon qui est pas très loin à Conte et puis qui l'emmène en Italie.
Qu'est-ce qu'on ne peut pas recycler en fait ?
Alors, toutes les matières qui sont un petit peu complexes ne peuvent pas être recyclées. Après, ce qu'on va mettre dans la poubelle d'ordures ménagères, donc les mouchoirs, les couches jetables, les choses comme ça, les aliments aussi, on n'a pas de composteur, donc ça va partir à l'usine de valorisation énergétique.
Et les déchets spéciaux comme les déchets électroniques, qu'est-ce que ça devient ?
Alors, il y a des matières qui vont être recyclées et puis d'autres, pas forcément. L'intérêt, c'est de démanteler en fait, ces appareils pour justement séparer les différentes matières. Et donc, certains des composants de ces, ce qu'on appelle D3E, donc déchets d'équipements électriques et électroniques, vont être recyclés et d'autres pas, mais en tout cas, ne seront pas lâchés dans la nature avec toute la pollution qui est à l'intérieur.
Maintenant, on arrive à recycler les dosettes de café. Ça fait un peu comme dans la pièce de Ionesco, Amédée, vous savez, c'est un cadavre. Au fur et à mesure de la pièce, on essaye de s'en débarrasser, mais il grandit, 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 grandit. Les dosettes, c'est un peu ça. Est-ce qu'on arrive à les recycler maintenant ?
Et là, on rentre dans le côté un peu technique, parfois, du recyclage. Ça dépend lesquels.
Ah, d'accord.
Voilà, parce que, pareil, une dosette, généralement, elle est rarement composée d'une seule matière. Donc, les dosettes en aluminium, oui, parce qu'il n'y a que de l'aluminium. Mais dès lors qu'il y a une dosette avec un peu de papier, un peu de plastique, un peu d'aluminium, là, ça commence à complexifier vraiment le processus de recyclage. Et
Donc il faut simplifier à la source, quoi, en fait.
Et là, vraiment, c'est au niveau de l'éco-conception qu'il faut que ça se fasse et trouver des solutions, puisqu'on est dans la semaine européenne de la réduction des déchets, qui permettent de ne pas utiliser des dosettes, c'est possible. Il existe plein de machines à café, de solutions pour faire sans ces dosettes.
Alors, je ne vais pas vous mettre en porte-à-faux, mais il y a aussi beaucoup de déchets du bâtiment. Vous pouvez nous en toucher un mot ou pas ? Ou ce n'est pas du tout votre domaine de compétence ?
Non, parce que dans le cadre justement de tout ce qui est responsabilité élargie, producteur et du pollueur-payeur, les déchets du bâtiment, nous, SMA, on collecte les déchets plutôt des ménages, des particuliers et des entreprises, mais pas des gros déchets gravats type BTP. C'est pas de notre sort.
Merci.
Merci à vous.
Malheureusement, l'invité que nous avions pressenti n'a pas pu se libérer ce soir pour parler de ces déchets du bâtiment. Mais on ne désespère pas de le rencontrer dans les jours qui viennent et on saura tout sur le recyclage de ces déchets sur Radio Éthique. Je vous rappelle que c'est quand même en France cette fois-ci 50 millions de tonnes de ce genre de déchets par an. Enfin, il y a les déchets délicats à manier, comme les déchets médicaux. Yann Morezen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint du CHPG. En gros, pour faire simple, à l'hôpital, il y a les déchets qui ne sont pas contaminés et qui vont directement à l'incinérateur. Et puis, il y a les déchets plus complexes à traiter, ce sont les contaminés. Vous pouvez nous donner des exemples de ces déchets contaminés ?
Voilà, donc effectivement, on a trois grandes catégories même. Donc, des déchets contaminés, des activités de soins, donc des déchets non contaminés, et on a tout ce qui est déchets hors activités de soins. Donc, sur les déchets contaminés des activités de soins, c'est pour nous l'enjeu majeur en termes de tri, puisqu'il faut savoir que c'est des déchets qui ne peuvent pas être traités sur la principauté de Monaco, et qui donc doivent être transportés jusqu'à Nice. Et un de nos principes, justement, c'est de gérer au maximum en proximité nos déchets. Donc forcément, notre enjeu, c'est vraiment de trier le plus possible dans les unités pour pouvoir donc limiter ces transports à Nice.
Alors, donc, pour séparer ces deux types de déchets, il y a deux types de poubelles.
Il y a deux types de poubelles. On a les poubelles noires et les poubelles jaunes. Donc, les poubelles jaunes donc, sont les poubelles donc, qui traitent donc, ce qu'on appelle des dasseries. Hein. C'est le terme commun. Donc, déchets activités de soins donc, à risque infectieux. Donc, on peut trouver donc, différents types de produits dans les dasseries. Donc, c'est les déchets de soins, tout ce qui peut être pansements, poches, les flacons, les sondes urinaires. On a tout ce qui est le matériel de protection, donc les couches qui sont contaminées. Donc pour nous, c'est un très gros volume, vous vous en doutez. On a également donc, tout ce qui est déchets biologiques, les tubes de laboratoire, donc centres de transfusion de sang également. Et enfin, donc, les verres médicaux contiennent donc, des produits de santé. Donc tout ça, effectivement, on ne peut pas l'envoyer à l'incinérateur de Monaco qui n'est pas adapté pour traiter ça.
Donc vous demandez à tout le monde à l'hôpital de faire un effort et de trier à la source.
Voilà.
Et c'est assez efficace.
C'est efficace.
Les gens sont réceptifs ou pas ?
C'est un travail de tous les jours, beaucoup de sensibilisation. Puisque c'est vrai que les gens sont très très occupés dans le cadre de leur fonction de soins. Donc la facilité voudrait que on mette tout dans la même poubelle. Donc on a vraiment un rôle de sensibilisation qui va sur le professionnel actif, aux écoles. On a beaucoup d'interventions dans les IFSI, dans les IFAS, hein, pour former nos aides-soignants et nos infirmiers.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est parce que...
Voilà, donc l'IFSI, en fait, c'est l'Institut de formation en soins infirmiers, donc une école qui est à l'hôpital au CHPG. Et l'IFAS, donc, c'est l'Institut de formation des aides-soignants. Donc j'ai envie de dire, c'est des pratiques qui s'apprennent dès la formation initiale, pour que les gens arrivent après dans leur fonction avec les bons réflexes.
Donc ça devient de plus en plus efficace.
Ça devient de plus en plus efficace. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc mais on continue. Voilà. Donc c'est vraiment un travail important, je vous dis, de tous les jours.
Alors vous nous avez dit que vous aviez 15 catégories de déchets. Parmi eux, par exemple, il y a quelque chose auquel on ne pense pas souvent, ce sont les métaux précieux. Vous les récupérez ?
Oui. Alors on les récupère. On a une volonté de les récupérer. Voilà, effectivement. Il y a des métaux précieux qui sont très basiques, c'est les films radiologiques par exemple, on appelle ça les films argentiques, donc ça signifie qu'il y a de l'argent dedans. Donc on s'est valorisé aujourd'hui, voilà, donc ça ne nous coûte rien de les évacuer, il faut savoir que c'est plusieurs centaines de kilos à chaque fois, et on a quelqu'un qui est vraiment intéressé pour pouvoir les recycler, donc au final il y a de l'argent. Et puis donc dans nos matériaux biomédicaux, effectivement, on a aussi un certain nombre de métaux précieux. Donc ça peut être du cuivre, ça peut être un certain nombre d'éléments comme ça. Et on essaye de faire en sorte de le valoriser au maximum. Voilà, donc ça fait partie des enjeux, de choses qui sont encore, je dirais, en termes de développement.
Et je présume que les déchets nucléaires aussi, c'est en termes de développement.
Alors,
ça doit être assez difficile de les recycler.
C'est un enjeu pour nous. Il y a tout ce qui est radioactif, et chimique et toxique. Voilà, donc, alors on a des déchets nucléaires. Donc on a un service de médecine nucléaire, un gros service qui fonctionne très bien. Donc, avec des produits de contraste qui intègrent donc des matières radioactives. Donc là, on traite ça de façon très particulière. Bien entendu, ça part pas dans un incinérateur comme ça. Il y a un prestataire qui le traite. Et suivant la façon dont c'est traité, il y a des déchets qui peuvent in fine être incinérés après traitement, ou alors c'est carrément éliminé dans des filières particulières. Et tout ce qui est toxique, on a notamment les poches de chimiothérapie. Il faut savoir que toutes les poches ne sont pas forcément utilisées. Donc là aussi, on a tout un système de mise en place avec des prestataires spécialisés, donc d'élimination.
Alors voilà pour les déchets hospitaliers, mais vous axez vos efforts aussi sur un autre domaine au CHPG, au Centre Hospitalier Princesse Grâce. Vous faites un gros effort en ce qui concerne les déchets alimentaires. Votre stand, d'ailleurs, ici, est consacré à ça, pour la semaine de la réduction des déchets. Ce sont les déchets alimentaires des patients ou ceux du personnel ?
Alors, c'est les deux. En fait, voilà, donc on a lancé vraiment une démarche assez innovante, donc de la part de la responsable de la restauration et de l'hôtellerie au centre hospitalier et de son équipe. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment qu'au niveau des patients, notamment... de la prise de commande jusqu'à la fabrication du repas, en soi, au plus juste besoin. Donc, on a vraiment une prise de commande auprès du patient. Donc, l'idée, c'est de pas produire plus que nécessaire. Donc, un gros travail des diététiciennes également. On essaye de faire en sorte que nos produits soient bons, qu'ils soient bien présentés. Donc, ce qui fait que, en général, c'est les assiettes sont complètement mangées. Mmh. Et donc, comme la nourriture fait partie du soin, voilà, c'est du gagnant-gagnant. Donc, gros travail là-dessus. Gros travail aussi sur le self. Donc, il faut savoir qu'on sert beaucoup de repas donc, au niveau du self, parce qu'il y a 2700 agents au centre hospitalier.
Mais qui ne mangent pas tous.
Qui ne mangent pas tous, mais plus de la moitié y mangent. Donc, vous voyez, donc ça fait quand même plusieurs milliers de repas qui sont servis par jour. Donc, là aussi, on incite effectivement à. Quand c'est un buffet, à prendre le mieux possible, et sans abuser et sans jeter.
Et vous arrivez à récupérer ce qui est laissé dans l'assiette ou c'est jeté
On a fait une grosse démarche sur le pain. Voilà, on jette énormément de pain, donc c'était extrêmement dommage. Donc on a sensibilisé les gens pour qu'ils s'en prennent pas trop. Et malgré tout, on en jette. Donc là, on vient d'acheter par exemple une machine qui permet de transformer le pain en chapelure. Et qui permet après de faire des gâteaux. Voilà, donc on a un système qui fait qu'au final, on n'a plus du tout de pertes, donc avec des bons produits. Et voilà, c'est des petites choses, mais qui font avancer la démarche de développement durable.
Merci Yann Morozen.
Merci.
Je le disais tout à l'heure, le meilleur déchet, c'est quand même celui qu'on ne produit pas. Vous êtes d'accord avec moi, Sébastien Huchère ?
Oui, tout à fait. Ouais. J'en parlais tout à l'heure sur le bateau de Sunsea. C'est vraiment ça.
Qu'est-ce que c'est le bateau ?
Le bateau, c'est le bateau autonome en énergie solaire qui.
Celui qui traverse le port Hercule.
Voilà, qui était aujourd'hui présent sur cet événement pour emmener des citoyens, ramasser des déchets dans le port, en mer, et prendre le temps autour d'une table de parler de notre propre consommation et de notre propre production de déchets.
Alors Sébastien Huchère, vous êtes à Decathlon, vous êtes confronté au même problème au niveau des emballages. Est-ce que vous faites un effort pour les réduire chez Decathlon ?
Bien sûr, on essaye chacun à son niveau de trouver des solutions, donc que ce soit au plus haut niveau chez les ingénieurs packaging, la recherche et développement, et nous à notre niveau, on trouve des solutions, des fois radicales, comme cette volonté d'arrêter de vendre des bouteilles en plastique et de les remplacer par des bouteilles, des gourdes. Et après, on cherche des solutions de revalorisation aussi. Par exemple, nos cintres aujourd'hui, tous les cintres en plastique qu'on a sont des cintres qui sont recyclés, revalorisés, réutilisés. Donc oui, on essaye de trouver des solutions. Et surtout, on essaye de faire en sorte que tous les collaborateurs soient conscients qu'ils doivent et qu'ils peuvent prendre des décisions à leur niveau et proposer, être force de proposition pour qu'on puisse avancer et faire des choses durables.
Mais le système d'emballage, c'est vous qui le faites ? C'est Decathlon, le système d'emballage, qui le fait, ou c'est une prestation d'une société extérieure ?
Non, c'est Decathlon. Alors, j'aurais peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est Decathlon, puisque...
Donc vous avez la maîtrise de ça ?
Ah, tout à fait. Decathlon est propriétaire de ses marques, donc Decathlon maîtrise la totalité de la chaîne de ses produits, donc Decathlon trouve et doit trouver des solutions.
Sur les produits que vous vendez, il y en a beaucoup qui sont en plastique, que ce soit les lunettes, les chaussures, etc. Il y aurait moyen de changer les matériaux de production ?
Je pense qu'on... Avec mon œil de citoyen et pas d'expert, j'ai envie de dire que je pense qu'il y a des solutions.
Je vais vous en donner une autre tout à l'heure, je pense. Allez-y, dites-nous.
J'en suis même persuadé, ça serait un peu facile de dire qu'il n'y a pas de solution. Maintenant, moi, mon combat de responsable associatif et de citoyen, c'est plutôt sur des plastiques qui sont utilisés très peu de temps, qui sont à usage unique. Ça, c'est un vrai problème. On parlait tout à l'heure sur le bateau d'une bouteille d'eau qui peut être bue en 50 secondes et qui va mettre 400 ans à se dégrader.
Ah, oui.
J'ai plus ça comme problème, c'est plus ce genre de choses que je veux combattre. Il y a des plastiques, je combats pas le plastique en général, il y a des plastiques aujourd'hui, votre casque est en plastique, il y a des plastiques qu'on peut réutiliser, qu'on peut garder. Non mais le plastique est un beau matériau, je pense, a servi à aider la médecine, à faire de grandes choses. Par contre, on se rend compte que des plastiques qui sont utilisés quelques secondes, quelques minutes, et qui mettent des centaines d'années à se dégrader, ça c'est un vrai problème. Donc si on arrive à déjà... trouver des alternatives là-dessus. Vous parlez de Decathlon, je pense qu'on doit traiter nos plastiques d'emballage, nos plastiques de packaging. Et les lunettes, on verra plus tard, parce qu'elles peuvent être utilisées. Peut-être faire prendre conscience aux gens, quand ils achètent une paire de lunettes, ils doivent prendre conscience qu'il a fallu du temps et des matériaux pour la faire, et que ça a de la valeur. Et même si elle n'a pas coûté cher, on ne doit pas se dire que si on la perd, c'est pas grave. Si on la perd, c'est un problème.
Mais je vous posais la question sur les chaussures, parce que j'ai lu attentivement le journal du dimanche aujourd'hui. Et il y a un reportage sur une marque bien connue de chaussures de sport qui veut faire des chaussures maintenant avec un seul matériau entièrement recyclable. Ça doit être possible. Et non seulement avec d'autres plastiques que des plastiques qui ont été utilisés pour les chaussures, mais en utilisant les vieilles chaussures pour les recycler en nouvelles chaussures. Ouais. Vous pensez que c'est faisable ?
En tout cas, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se monter. Il y a Parler, c'est une entreprise qui permet aujourd'hui de recycler et de proposer à des grandes marques de chaussures de produire des chaussures en plastique recyclé. Je pense qu'il va y avoir des solutions. Et de toute façon, la solution, c'est le consommateur. Il y a de plus en plus de consommateurs conscients qui consomment de moins en moins de produits impactants. Et donc, c'est en train de bouger énormément les industriels pour trouver des solutions. C'est encore une fois nous, citoyens, nous, collaborateurs dans les entreprises qui avons la clé, qui avons la puissance. Et on doit vraiment se refaire confiance pour incarner les changements qu'on veut voir dans le monde.
Alors, vous êtes aussi très investi dans l'écologie pratique, je dirais. Vous avez voulu sensibiliser les gens à la pollution maritime. C'était en juin dernier, si je ne me trompe pas, en faisant un périple en paddle le long des côtes de la Méditerranée. Vous nous racontez un petit peu ce que vous avez fait ?
Oui, je suis parti en stand-up paddle du Larvoto à Monaco. Et le défi, c'était de rejoindre le département du Var, et de traverser notre département. Comme je parle souvent de faire confiance aux autres, de se faire confiance, j'ai voulu partir sans eau, sans argent, sans nourriture. Et au gré des rencontres, trouver toutes ces solutions-là. Et comme le défi était de traverser ce département, ça correspondait à 30 000 coups de pagaie, je me suis dit que c'était la bonne idée pour essayer de ramasser 30 000 déchets.
Pas vous qui les avez ramassés ?
Non, moi j'en ai ramassé peut-être un peu moins de 2000. Mais en tout cas, j'ai créé une communauté et les gens se sont engagés pendant 4 jours un peu partout en France, même en Europe, pour m'aider à ramasser ces déchets. D'ailleurs, il y a Kate ici présente qui m'a bien aidé pour réussir cette collecte. Et voilà, plein de gens, plus de 1000 personnes. Donc c'était vraiment un beau défi physique.
Ça fait combien de kilomètres ?
Ça fait une centaine de kilomètres. Ouais. Une centaine de kilomètres, j'ai mis 4 jours avec des belles histoires. Un périple que j'ai filmé. Toutes ces rencontres, je les ai filmées. Et j'en ai fait un petit documentaire que j'ai partagé avant-hier à Monaco, d'ailleurs, pour lancer la SERD à mon niveau, à mon échelle.
SERD, c'est quoi ?
Semaine européenne de réduction des déchets.
Vous nous parliez de belles histoires, racontez une belle rencontre.
De belles rencontres, des étudiants qui m'ont accueilli. J'ai dormi sur l'abbaye de Saint-Honorat, donc j'ai eu des échanges avec des moines qui sont sur leur île depuis 37 ans et qui ont une vision de la sixième extinction de masse qui est complètement différente de la nôtre, qui sont très apaisants, mais qui, eux aussi, agissent chaque jour à leur niveau pour essayer de ne pas avoir d'impact ou beaucoup moins d'impact, ou alors un impact positif. Et puis une vision de l'écologie qui est bien plus large, voilà, une forme d'écologie intégrale, et prendre soin des hommes, prendre soin de son petit espace, c'est la chose la plus importante qu'on peut faire aujourd'hui, et remettre de l'humilité dans nos actions. Voilà, faire ce que je fais, c'est pas protéger la planète, c'est simplement être égoïste pour protéger mon terrain de jeu, ma maison, mon fils, les endroits où j'aime vivre.
La pollution, vous la voyez à l'œil nu quand vous faisiez du paddle ?
Ouais, tous les déchets que j'ai ramassés, je les ai ramassés sur les plages et en mer. Alors c'est des macro-déchets, c'est ça qui est inquiétant, c'est que j'ai ramassé que des grosses choses. Et on parlait tous les deux, là il y a des scientifiques qui présentent jeudi soir à Monaco, je crois, un projet qu'ils ont mis en place. Ils sont descendus à plus de 2000 mètres, ils ont trouvé du plastique à 2000 mètres de profondeur.
Oui, c'est en vrai, on parlait avec Ramoge.
Bon, ben voilà, donc moi j'ai vu des choses qui sont visibles. Et le problème, c'est que je pense que c'est un peu comme un iceberg, quoi. Je vois juste une partie visible qui est peut-être la partie la moins importante. Mm-hmm. Mais malheureusement, il y a beaucoup de déchets en surface.
Vous qui êtes sensibilisé à ce problème, vous pensez que la pollution augmente ou elle diminue ?
Je sais pas si elle diminue, j'aimerais y croire, mais comme je suis de plus en plus entouré de gens qui se battent, j'ai l'impression que tout le monde prend conscience, mais c'est ma vision et c'est peut-être pas la réalité. J'ai pas l'impression que ça diminue, mais j'ai l'impression que les gens commencent à comprendre qu'ils ont la puissance de choix, que leur caddie est un bulletin de vote et que si individuellement on change, alors le monde change. Et c'est ce que j'écris sur le logo de mon association, se changer, c'est changer le monde et revoir les choses à son niveau, c'est le plus important. Il ne faut pas regarder ailleurs.
Comment s'appelle-t-elle, votre association ?
Stand Up for the Planet.
D'accord. Vous êtes aussi organisateur du jour de nettoyage de la planète. Ça sert à quoi, la stratégie du colibri, à ramasser ponctuellement une goutte de déchets dans un océan d'objets ?
C'est un peu ça. Une goutte de déchets. Comme le colibri fait sa part, faire sa part, c'est changer le monde et c'est se faire du bien. C'est faire du bien à son environnement, et cette journée permet de réunir plus de 19 millions de personnes dans le monde. Et à Monaco cette année, avec les Eco Angels du Stars and Bars, on a réuni près de 200 personnes sur cette journée-là. Donc Donc voilà, quand le colibri se multiplie par 60 millions de Français, par 7 milliards d'êtres humains, ça peut devenir quelque chose de très puissant. Donc je crois en cette fable.
Vous avez d'autres actions ?
Bah, j'ai des actions tous les jours presque. Voilà, j'essaye de partager déjà les actions des autres, parce que j'ai vraiment envie que mon association soit une sorte de machine à donner de l'écho aux belles actions par la vidéo, par le partage. Et j'écoute beaucoup Radio Éthique parce que c'est exactement aussi ce que vous faites. Vous partagez beaucoup de belles choses et ça inspire les gens. Et donc si on est des centaines de milliers à faire ça demain, bah, ce sera assez puissant. Et on fait des actions de ramassage. Je suis plutôt pour la sensibilisation par l'action parce que depuis que je travaille, j'ai l'intime conviction que la meilleure autorité, c'est l'exemplarité. Donc voilà, on fait des choses. On fait des actions de ramassage, des actions de sensibilisation.
Merci Sébastien Huchère. On se retrouve dans un instant.
Écoutez Radio Éthique, Radio E-T-H-I-C et Réagissez. Et réagissez.
Se dessine, courageux et fort, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimer sur les bords.
Florian Champion, bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez à Ramoges. Ramoges, je rappelle ce que c'est la zone maritime de protection de l'environnement marin entre Monaco, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur française et la zone Ligure en Italie. C'est bien ça ?
Tout à fait. On Alors, est un accord de coopération assez unique en Méditerranée. On a été créé en 76 à l'initiative notamment du prince Rainier III, qui était vraiment une vision novatrice à l'époque. Et donc, comme vous l'avez bien précisé, notre territoire d'action s'étend de Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, en passant par Monaco, jusqu'à la Spezia, donc la toute fin de la région Ligure en Italie.
Alors, je voudrais rappeler quelque chose qu'on imagine à peine et qui s'appelle le vortex. Une surface de trois fois la France de déchets au large de la Californie, presque toujours du plastique, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, généralement qu'on ne voit pas. Est-ce que ça existe en Méditerranée ?
Alors non, pas dans ces proportions. Il peut y avoir des zones d'accumulation de déchets en surface, mais au fond. Mais c'est vrai, cette image que vous prenez est particulièrement évocatrice, puisque, je le rappelle, 70% des déchets que l'on retrouve sont au fond. Là, ce que l'on voit, c'est vortex que vous décrivez en surface, c'est juste la petite partie. Et donc, nous, avec Ramoge, à travers des explorations, notamment en milieu profond, on retrouve une très très grande partie de ces déchets dans les canyons profonds, à plus de 2000 mètres de profondeur, en des états de conservation qui font pâlir.
Il y a presque les sols qui sont couverts de déchets plastiques.
Tout à fait. Nous avons mené en 2018 une campagne d'exploration dans les milieux profonds. Nous avons pu faire tous les canyons de la région PACA jusqu'à la région Ligure. Et nous avons vu à travers des systèmes de robots sous-marins, des ROV, qui sont descendus donc à 2200 mètres de profondeur pour les plus profonds, des étendues, des champs de plastique et d'autres objets, objets de pêche, filets fantômes, etc. Et il y a une image qui est assez marrante. On a pu retrouver un petit pot de yaourt de marque Chamburti. Alors pour les moins de 30 ans auront sans doute du mal à comprendre, mais Chamburti, c'était une marque de yaourt comme Nestlé aujourd'hui, qui a arrêté sa production en 96. Mm-hmm. Donc ça fait maintenant presque 25 ans que ce petit,
que le petit
pot de yaourt
est
relâché dans la nature
la
et ouais. Vit au fond de la mer.
Ouais. Vous occupez de cette zone-là, la zone Ramoge, mais est-ce qu'il y a des zones particulières en Méditerranée que vous connaissez qui sont particulièrement polluées ?
Oui, alors cette problématique des déchets est particulièrement prégnante dans la zone Ramoge, puisque c'est une zone qui est soumise aussi à une activité touristique forte. On le voit régulièrement ici à Monaco, mais aussi en PACA et en Ligurie. Néanmoins, c'est un problème beaucoup plus global, un problème méditerranéen.
Je pense que vous avez dû appuyer sur le bouton, donc on ne vous entend plus. On va essayer de le modifier, mais je ne sais pas où ça se passe. On regarde ça, s'il vous plaît. Ah, vous en avez un autre, oui, parfait. Là, on vous entend, allez-y.
C'est la technique du direct.
Oui, c'est ça.
Oui, donc la Méditerranée, c'est un espace particulièrement exposé et vulnérable. Je le rappelle, c'est 30% du trafic maritime mondial. C'est aussi 300 millions d'habitants qui vivent sur ces côtes, donc forcément un milieu très exposé. Et on le voit encore aujourd'hui dans certains pays du bassin méditerranéen, qui est un bassin fermé, donc particulièrement propice aux concentrations de déchets. Il n'y a pas de système qui permette le traitement des déchets. Et il y a encore des camions qui rejettent tous les jours des déchets en mer.
Tant qu'ils soient traités.
Tout à fait.
Comment ça se mesure, la pollution maritime ?
Alors, c'est assez complexe. Du côté de Ramoge, on s'intéresse tout particulièrement aux déchets marins. Donc, pour ce faire, nous avons fait appel à des groupes de scientifiques, notamment des scientifiques de l'IFREMER, qui vont mettre en place des protocoles spécifiques bien déterminés, qui s'inscrivent dans des cadres européens par rapport à la directive cadre stratégie du milieu marin, et qui vont étalonner les concentrations de déchets. Alors ça peut être les microplastiques que l'on va retrouver dans les sédiments marins, ça peut être également les interactions entre les plastiques, mais aussi les espèces marines, pour prendre en compte les effets sur le comportement de ces espèces et de ces écosystèmes. Donc c'est assez vaste.
D'accord. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus comme déchets en Méditerranée ? C'est plutôt les microplastiques, les filets de pêcheurs ?
Alors ça dépend des endroits. De manière générale, il faut savoir qu'environ 80% des déchets sont des déchets plastiques. À partir de là, nous retrouvons des déchets sur toutes les zones. Nous avons visité plus d'une quinzaine de canyons profonds entre 2015 et 2018. Et à toutes les profondeurs et sur tous les sites, nous avons retrouvé des déchets. Les proportions peuvent varier, beaucoup de plastique essentiellement, mais aussi des déchets de pêche, puisque pour les zones qui sont le plus soumises à cette pression de l'activité de pêche, on retrouve très fréquemment des filets, des engins moteurs qui, encore aujourd'hui, continuent d'emprisonner les espèces et d'avoir un impact négatif sur le milieu.
Et quels sont les plus dangereux ? Est-ce que ce sont les filets, par exemple, parce que les animaux se prennent dedans ? Ou est-ce que ce sont les microparticules, parce que les animaux les avalent, les digèrent et sont contaminés par ces microparticules ? Les deux ?
C'est les deux, bien sûr. Puisque, voilà, comme vous l'avez très bien dit, ces filets fantômes continuent de faire leur course et de prendre et de capturer des espèces qui y meurent. Mais également, voilà, la grande concentration de microparticules de plastique sur la Méditerranée, ce sont 250 milliards de particules. Il faut le savoir, ces particules, on les retrouve après dans les systèmes digestifs des poissons, des mammifères, des tortues, même d'espèces d'oiseaux.
Et dans les nôtres.
Et dans les nôtres.
Si on les mange.
Extenso, bien sûr, dans les nôtres.
Que propose Ramoge pour réduire ces déchets-là ?
Bien, écoutez, en dehors de ces campagnes d'exploration qui nous permettent d'avoir une véritable connaissance sur l'état de conservation des milieux, nous essayons avec les scientifiques qui ont participé à ces explorations de réfléchir et de proposer des recommandations concrètes pour les gestionnaires de ces pays qui font partie de l'accord. Ça peut être des actions très simples, des mesures de gestion au niveau des aires marines protégées, mais ce constat que nous avons fait au niveau des explorations nous encourage à travailler tout particulièrement sur les communes, puisque les communes, ce sont vraiment les collectivités qui sont en prise directe avec les gens, qui ont l'impact le plus important, vraiment à la base de la pyramide. Et nous avions pu, par le passé, organiser des campagnes de recensement de déchets en 2014, en 2015, sur les plages de notre zone Ramoge, pour mettre en évidence les déchets les plus récurrents que l'on retrouve sur notre littoral. Eh bien, ces déchets, ils proviennent voilà, des communes, mais aussi des communes, non seulement littorales, mais aussi des communes en amont, puisqu'il faut savoir que les déchets proviennent avec le cycle de l'eau, les ruissellements, etc., sont amenés en mer. Ils peuvent faire plusieurs kilomètres ainsi.
Alors, ces communes, vous leur proposez un protocole d'agissement ?
Voilà, on est actuellement en train de travailler sur un guide déchets. Un guide déchets qui a quatre objectifs principaux. Le premier, c'est de faire connaître aux communes voilà, cette problématique déchets et l'impact sur l'environnement. Ensuite, c'est de leur présenter les déchets les plus récurrents sur lesquels elles vont pouvoir avoir une action concrète. À partir de là, c'est de leur rappeler et d'appréhender le contexte législatif et réglementaire sur les déchets concernés pour leur proposer de mettre en place des actions soit opérationnelles, c'est-à-dire distribution de cendriers de poche, promotion des acteurs du vrac, etc., des opérations contractuelles en encourageant à travers l'occupation du domaine public des initiatives de réduction des déchets, des événements zéro déchet, les obliger à avoir une proportion de déchets recyclés, les empêcher d'utiliser de la vaisselle plastique non réutilisable, par exemple, ou encore des opérations de sensibilisation à destination des agents pour qu'ils puissent à leur tour informer le public, ou des actions de sensibilisation directement tournées auprès des citoyens.
Et vous les sentez réceptives, ces communes, ou elles se disent encore une réglementation
Alors, on est encore au début du projet, mais je crois que les communes commencent à saisir progressivement l'importance d'agir pour l'environnement. C'est une préoccupation citoyenne qui émerge de plus en plus, et les communes ont un rôle majeur à jouer, et on essaye bien de les convaincre pour qu'elles puissent pleinement jouer ce rôle.
Vous essayez de toucher les plaisanciers aussi ?
Oui, tout à fait. Par le passé, nous avions pu rédiger ce que nous avions appelé les 10 commandements du plaisancier pour justement voilà, les sensibiliser à leur impact sur l'environnement, leur dire, écoutez, c'est pas parce que vous êtes en mer, la mer, c'est ce que vous aimez, c'est un espace de liberté, justement, respectez-la. Ne jetez pas vos déchets parce qu'en vous disant que de toute façon, on les retrouvera jamais et personne ne vous verra, non. Soyez responsables et protégez cet environnement que vous aimez.
Est-ce que Monaco est touchée par cette pollution ?
Bien sûr, Monaco et toutes les villes du littoral sont touchées par cette pollution. Monaco sans doute peut-être plus qu'ailleurs, de par la pression touristique, de par cette activité très dense sur cette petite localité en termes de superficie. Donc oui, il faut être attentif à ce qui se passe à Monaco, mais plus largement sur la Méditerranée. Et ce qui est agréable à Monaco, c'est que justement, on a des acteurs très engagés, un écosystème très dense et qui a à cœur de faire bouger les choses. Donc il faut capitaliser là-dessus pour être efficace.
Est-ce que dans le port, il y a des bouteilles plastiques, des déchets?
Oui, évidemment. Ouais.
Donc il faut là aussi faire très attention à ce qu'on...
Tout à fait, et je crois que le témoignage de Sébastien Huchard, juste avant, était très éloquent sur la question. Il y a beaucoup d'initiatives voilà, qui ont cette vocation à réduire les déchets. On l'a vu aussi récemment, voilà, des campagnes pour recueillir les mégots sur les plages. Et il faut continuer dans ce sens.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On va revenir sur Terre et on va s'occuper de nos assiettes, Kate.
Oui, hein, bonsoir.
Bonsoir. Kate Powers, vous êtes la directrice du Stars & Bars, l'un des restaurants les plus célèbres de Monaco. Vous êtes très impliquée dans l'utilisation du plastique, ou plutôt dans l'utilisation pas du plastique.
Exactement.
Qu'est-ce que le Stars fait pour éliminer le plus de plastique possible?
Ben, on a commencé il y a déjà quelques années avec les pailles et les conteneurs emportés aussi. On fait tout pour sensibiliser nos clients. On avait des tasses à emporter qui étaient aussi un peu à base de plastique. Mm-hmm. On a enlevé les bouteilles en plastique qu'on faisait. On avait à peu près 96 000 qu'on transportait aller-retour chaque année. Et maintenant, on filtre notre propre eau. Ça fait un grand effet. On essaie de faire que les gens réutilisent les conteneurs, par exemple, à café. Mm-hmm. Au lieu d'acheter et juste pour jeter. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait plein de choses.
Mais vous n'avez pas cette politique. Par exemple, je suis allé dans un restaurant de Monaco, je ne le citerai pas, mais n'a pas de vaisselle réutilisable, qui ne prend que de la vaisselle et des couverts biodégradables.
Bah, nous aussi, c'est biodégradable, mais par exemple, maintenant, on fait la No Finish Line. Ouais. C'est nous qui les nourrissons. Ils sont plus d'une centaine par jour. 150, et on a emmené nos propres assiettes et nos couverts pour qu'eux, justement, n'aient pas tous ces déchets.
D'accord, mais là, c'est différent. C'est quelque chose qui est à l'extérieur de votre restaurant.
Oui,
mais dans le restaurant, est-ce que ça vaut vraiment le coup de jeter, même si c'est biodégradable, toutes les assiettes et tous les couverts?
Ah oui, on fait le maximum pour ne pas faire ça. On est en train d'essayer de voir maintenant avec les entreprises autour de nous qui viennent demander des plats à emporter, de voir avec eux si on peut acheter des conteneurs et faire un système de lavage et recyclage.
D'accord, ils sont d'accord là-dessus ?
Oui, ouais. De plus en plus, ils sont... Oui.
Donc, ces déchets alimentaires que vous avez, vous récupérez les épluchures dans la préparation des plats, par exemple, qu'est-ce que vous en faites ?
On a un composteur à l'extérieur, alors on composte au maximum et on donne notre compostage aux gens qui veulent venir le chercher. Ils doivent emmener leur conteneur et ils sont bienvenus de partager. Et on s'en sert aussi parce qu'on a un potager à l'extérieur. Alors on s'en sert pour notre potager aussi.
Ah, d'accord. Et lorsqu'un plat était trop copieux, bon, pour un de vos clients qui n'a pas mangé, ça se récupère aussi?
Alors je pleure beaucoup quand les gens laissent quelque chose dans leurs assiettes. On a les petites boîtes Doggy Box que la mairie nous donne et on en passe énormément parce que j'influence beaucoup les gens, je les supplie presque, prenez les plats, pouvez le manger pour le goûter, les enfants ils mangeront les chicken fingers, alors je fais beaucoup ça. On fait aussi, si vous commandez un hamburger, sans les frites ou sans le pain, on fait une réduction sur le prix. Et on fait vraiment au maximum pour sensibiliser, ne pas jeter. On fait les plus petites portions si vous voulez. Par exemple, lundi, on va faire notre journée sans poisson et sans viande. Le lundi vert, justement pour cette semaine. Et on va faire un énorme salade bar, un énorme buffet jour et soir. Et les gens, ils pourront servir à volonté, mais... s'il y a des déchets dans leurs assiettes, ils vont payer cher.
Ah d'accord, oui, c'est ça.
Pas cher, mais
oui. Non, je comprends, très bien. Mais ça, c'est une bonne idée. Ouais.
Voilà.
C'est rentré dans les mœurs, le doggy box, le doggy bag.
Ça commence, franchement, ça commence. Nous, on en passe énormément. Mais on le promouvoit beaucoup. C'est vraiment pas un truc de ce pays d'avoir des boîtes, d'emporter la nourriture. Alors, il faut vraiment sensibiliser, et c'est ce qu'on fait. Ça me tient beaucoup à cœur, parce que j'ai du mal à jeter, même dans le compostage, ça, voilà.
Et puis vous avez la collecte du verre aussi. Maintenant, c'est décidé, c'est 7 jours sur 7 auprès des professionnels, les commerces, les hôtels, les restaurants. Vous jouez le jeu ?
Nous, on a nos propres bouteilles en verre ici. On n'a pas besoin de transport. On filtre notre eau et tout ça.
Ah, d'accord.
Et le seul, c'est... non, parce qu'on a les pistolets à coca, les pistolets à soda. Ouais. Alors, on n'a pas vraiment... Et puis, on a Clink. Les poubelles pour les autres bouteilles à verre, vin.
D'accord. Alors, Kling, expliquez-nous un petit peu. Ça récompense celui qui va porter sa bouteille de verre.
Exactement. Tout notre personnel se bagarre pour l'utiliser parce qu'il y a une petite carte et vous recevez des dons et des cadeaux de différentes entreprises.
Merci, Kate, pour toutes
merci
ces explications.
Merci à vous. Je suis ravie d'être avec vous et merci.
Cyrielle Dumas, vous êtes de la direction de l'environnement. Bonsoir.
Bonsoir.
On a vu les initiatives des particuliers et des groupes pour essayer de s'investir dans l'élimination ou la réduction des déchets. Du côté des pouvoirs publics, alors, on agit aussi avec un certain nombre de réglementations qui sont ou qui vont être mises en place. Elles concernent qui ? L'administration, les entreprises, les deux à la fois ?
Eh bien oui, ça concerne tout le monde. Le gouvernement, en fait, a signé un plan de prévention de gestion des déchets à horizon 2030. Et toutes ces politiques... est basé là-dessus et a adopté aussi un objectif de zéro plastique à usage unique d'ici 2030. Du coup, pour accompagner ça, c'est tout un panel de réglementations. Ça a commencé en 2016 avec l'interdiction des sacs de caisse à côté de la campagne, vous savez, des sacs pour la vie, ces sacs bleus qui ont été distribués pour encourager les gens à utiliser des sacs réutilisables. Ensuite, en 2019, cette année, on a interdit les pailles en plastique et les touillettes à café, pour le café. Et en 2020, ce sera la vaisselle en plastique, donc les couverts en plastique, les assiettes et les gobelets sont interdits au 1er janvier 2020 à Monaco.
Mais il faut quand même écouler les stocks. C'est difficile, peut-être ?
Eh bien, ça dépend parce qu'en fait, les commerçants sont déjà au courant et beaucoup ont finalement déjà entamé leur transition. Et ça vient aussi parce qu'on a mis en place un système d'accompagnement de nos labels qui sont le commerce engagé et le restaurant engagé qui va être lancé là en fin d'année pour accompagner justement les restaurateurs à faire leur transition pour opter pour de la vaisselle réutilisable. On est surtout sur le cas de la vente à emporter qui s'est concernée bien sûr. Et en fait, cet accompagnement-là permet justement d'anticiper la réglementation. Il y en a déjà pas mal qui ont fait la transition. Il y en a certainement qui auront des stocks à écouler.
Qu'est-ce que c'est exactement ce travail d'accompagnement ?
Eh bien, on fait appel à une association qui est EcoSens Provence et qui travaille la direction de l'environnement. Et c'est un accompagnement qui est offert par le gouvernement princier et qui va en fait qui va accompagner chaque commerçant en fonction de son activité ou chaque restaurateur vraiment de façon personnalisée, c'est-à-dire qu'il va voir quels sont les éco-gestes qui sont déjà mis en place éventuellement et après choisir ensemble quels sont les éco-gestes qui peuvent être mis en place pour améliorer encore la démarche. Et chaque année, on revient, on fait le bilan, on regarde où on en est et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer pour la suite.
Est-ce qu'il y a un accompagnement financier aussi ?
Eh bien, ça, disons que l'accompagnement, vu qu'il est gratuit déjà, permet ça. Et le label, en fait, va pouvoir permettre aux commerçants et aux restaurateurs de promouvoir en fait, son engagement. Et quelque part, donc c'est un petit coup de pouce publicitaire.
D'accord. Vous êtes aussi très actif dans la semaine de sensibilisation européenne aux problèmes des déchets. Ça va se traduire comment à Monaco ?
Eh bien, cette année, vous savez, c'est la première fois que Monaco participe à la semaine européenne de réduction des déchets. C'est une initiative du Stars & Bars. Et la direction de l'environnement, en fait, a permis d'officialiser la participation de Monaco. Donc, le gouvernement a signé une charte pour dire, Monaco s'engage à promouvoir les actions de sensibilisation. C'est parti hier. Depuis hier, on est sur des actions ouvertes au public toute la semaine. On a 48 actions en tout sur la principauté qui émanent de 60 acteurs différents. Donc ça a vraiment permis de fédérer, de créer une équipe solidaire entre les acteurs engagés. Et vous allez avoir toute la semaine, donc depuis hier et jusqu'à samedi prochain, des conférences, des ateliers, des actions de sensibilisation, d'explication. Parce que voilà, une politique, pour être suivie, il faut qu'elle soit comprise. Faut que la population adhère. Donc cette action de sensibilisation est vraiment très importante et va en accompagnement de la politique gouvernementale, des réglementations.
Est-ce que vous sentez les gens de plus en plus concernés par ce genre de problématiques ou pas ?
Et oui, et sur les 48 actions qui ont lieu cette semaine, il y en a une trentaine, ce sont des actions c'est vraiment des individus, pas des entités, des individus qui ont dit « Ok, moi je veux faire quelque chose cette semaine au sein de mon entourage ». Ils se sont emparés du sujet et ils ont décidé de sensibiliser leurs collègues ou même leur direction et de mettre en place des choses, faire des petits déjeuners zéro déchet et de dire à leurs collègues « Voilà ce que moi je fais, voilà ce que toi tu peux faire, c'est facile et viens, on y va ». Et oui, je trouve qu'il y a vraiment une dynamique qui s'est créée cette semaine.
Alors cette dynamique, elle se crée du côté des plus jeunes, des seniors, des plus vieux. Chacun est sensibilisé ou c'est plutôt les plus jeunes?
Disons que c'est un peu différent. Il y a tous les âges. Il y a un peu tous les âges. Après, souvent, les personnes d'un certain âge ont l'impression qu'on leur demande de refaire ce qu'ils faisaient déjà quand ils étaient jeunes. Mmh. Et du coup, c'est intéressant d'avoir le dialogue avec eux. Mais je pense que tout le monde est concerné.
Vous êtes optimiste?
Oui.
Raisonnablement?
Raisonnablement optimiste, tout à fait.
Très bien, merci. Restez un petit peu avec nous quand même. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Pourquoi ne pas en profiter pour rappeler une règle très simple? Si vous voulez contribuer à réduire vos déchets, une règle pratique, la règle des 4 R, refuser, pub, sac plastique, etc. Réduire en vendant, en donnant, en louant les objets qui vous encombrent. Réutiliser avec des sacs cabas et plus de sacs à usage unique, et puis recycler avec le compostage. Et puis j'ai vu tout à l'heure, justement, dans cette semaine de réduction des déchets ici au Stars and Bars, qu'il y en avait d'autres, des R, c'est quoi? D'autres R?
Oui, alors les deux autres R, on parle souvent des trois R.
Il y en a plus que quatre.
Il peut y en avoir cinq. C'est retour à la terre, et en fait, ça fait référence au compostage. Et refuser le déchet en numéro 1, c'est-à-dire par exemple, si je vais boire un verre, je refuse la paille en plastique, je refuse la paille à usage unique qu'on me donne.
Est-ce qu'on a produit des déchets ce soir? Non, hein? Semble-t-il pas? Bien sûr que non, me dit Kate, bien entendu. On n'aurait pas pu faire autrement, donc c'était très bien. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Evelyne Tolelli qui fut la première à préparer cette émission et qui mène les destinées de Radio Éthique. Et puis, l'homme de l'ombre, sans qui cette heure passée ensemble n'aurait pas pu être, c'est Hervé Pichat, notre metteur en onde. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, à notre prochaine rencontre.